Joseph Thomas, les chrétiens et même d'autres tiennent un certain discours sur Jésus et on ne peut pas ne pas admirer cet homme, son œuvre, sa pensée, sa parole, son audace. Mais il y a tout un discours qui entoure cette vie de Jésus, cette parole de Jésus qui est gênante. Et un discours qui tourne autour de la notion de salut, de la notion de rédemption, n'est-ce pas ? Je pense qu'aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus sensibles à une promotion collective, par exemple, qu'à un salut qui soit individuel. Alors, qu'est-ce que les chrétiens veulent dire quand ils disent que Jésus sauve ?
Je crois effectivement que c'est un de ces mots, n'est-ce pas, qui ont traversé toute l'histoire de l'Église, de la chrétienté, et qui ont revêtu un certain nombre de connotations plus ou moins variées. N'est-ce pas ? Salut, qu'est-ce que ça veut dire pour la plupart des gens ? C'est tout simplement, lorsque j'étais enfant, j'habitais sur la côte, n'est-ce pas ? Et il y avait là les sauveteurs et hospitaliers bretons. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, au fond, c'était les barques qui étaient destinées à aller repêcher les malheureux marins dont le bateau avait coulé. Donc salut, c'est arracher un danger, arracher un péril. N'est-ce pas ? Bon. Alors, de quel péril s'agit-il d'arracher l'humanité ? Eh bien, je dirais qu'il s'agit de l'arracher, non pas au péril de l'enfer, ce à quoi spontanément beaucoup de gens penseraient, n'est-ce pas ? Mais au péril de la déshumanisation. Je pense, si vous voulez, qu'à l'heure actuelle, nous sommes peut-être plus conscients qu'à d'autres époques que, indépendamment d'un enfer qui existe ou non, n'est-ce pas ? Le monde peut devenir un enfer. Et que la vie de chacun de nous peut devenir une vie infernale. Et que nos relations entre nous sont, souvent, sous le mode infernal. Je pense qu'il n'y a pas à discuter de la nécessité d'un salut si on constate simplement, si on ouvre le journal du matin, si on regarde la télévision, on voit bien que les relations entre les hommes sont faussées, que nous vivons dans un monde déshumanisé, littéralement déshumanisé. Alors le problème maintenant, le second problème, c'est de savoir si nous accepterons cette idée apparemment étrange, que le salut nous vient d'un autre. Car spontanément, je pense que la plupart des hommes sont convaincus que ce mal qui empoisonne le monde, c'est à eux de s'en débarrasser et qu'ils en sont capables. Alors c'est là la question. L'homme est-il capable de se débarrasser du mal qu'il porte en lui-même ?
Et à cela, les chrétiens répondent non.
Non.
Et ce mal qu'on porte en nous-mêmes, c'est ça qu'on appelle le péché ?
Absolument. Absolument, à condition de donner là aussi à ce mot tout son poids et de l'enraciner dans ce qu'il a de vraiment réellement humain.
Et pourquoi les hommes ne peuvent pas se débarrasser eux-mêmes de ce mal qui est en eux et qu'ils créent entre eux ?
Bien, voyez, je crois que lorsqu'on parle, vous employez vous-même le mot péché, n'est-ce pas ? Et je vous disais, attention, 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 donnons-lui son sens vrai. Il y a une première catégorie qu'on appelle péché que je balayerai rapidement. Ce sont toutes les petites transgressions, dirais-je. Et qui d'entre nous, se promenant dans un jardin, n'a pas quelquefois écrasé à droite ou à gauche les plates-bandes qui entourent l'allée ? C'est ça la transgression. Alors elles sont nombreuses, elles sont repérables, malheureusement, elles continuent un peu toujours. Mais sous cette couche, sous ce premier niveau, il se cache d'autres choses. Et tout d'abord un second niveau, où ce que vous appelez péché serait mieux exprimé par déviation, un désir déviant. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir justement cette rectitude qui nous fait aller droit à notre route, nous, délibérément ou progressivement, quelquefois même inconsciemment au départ, nous changeons. Mais il y a un troisième niveau. Il y a un troisième niveau, et j'aime bien le mot péché quand on le prend dans ce sens radical. Ce troisième niveau, ce n'est pas la déviation. Le troisième niveau, c'est la méfiance. L'homme est malade de la méfiance qui l'habite. Cette méfiance, il l'adresse à ses voisins, il se l'adresse à lui-même et il l'adresse à Dieu. L'inhumanité du monde que nous évoquions rapidement tout à l'heure repose sur ce fond extraordinaire de méfiance dont l'homme est malade. Il y a une maladie de l'homme.
Mais je vais vous poser la question naïvement. Méfiance originelle, péché originel.
Péché ou... de toujours à toujours. péché dont on nous raconte le premier exemplaire, et on a le mérite précisément de nous montrer ce sens profond de méfiance qui alors là s'est joué à 100%, mais péché qui se renouvelle en tout homme, tout homme naît sous le signe de la méfiance.
Tout homme naît sous le signe
tout
de la méfiance.
Tout homme naît sous le signe de la méfiance.
C'est ça que voudrait dire le péché originel.
Oui, c'est sûr que ça veut dire.
Mais écoutez, je vais poser les questions les plus naïves, n'est-ce pas ? Pourquoi Dieu a-t-il créé un homme méfiant ? Pourquoi a-t-il permis que cet homme commette cette faute de méfiance ?
Ah, bonne question, bonne question. C'est tout le problème, n'est-ce pas, de... Vous savez le mot de Bernanos, le scandale ce n'est pas la souffrance, le scandale c'est la liberté. C'est la liberté qui est scandaleuse. Mais il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas simultanément la possibilité de dire oui et la possibilité réelle de dire non. Parce qu'il n'y aurait plus d'amour à ce moment-là. L'amour n'est possible, l'amour qui est le contraire de la méfiance. L'amour n'est possible que sur un premier fond de défiance, surmonté, vaincu, librement. Mais autrement, nous serions des robots. Nous serions des robots asservis. Nous ne serions pas des fils tels que le Père les attend et les cherche. D'où le risque. Alors fond de méfiance radicale, maladie que nous portons tous en nous. Et je dis bien, méfiance qui, encore une fois, n'est pas d'abord méfiance par rapport à Dieu. Nous sommes autant méfiants les uns des autres que méfiants de Dieu, et nous sommes surtout méfiants de nous-mêmes.
Mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu créer un être qui ne soit pas méfiant ? En quoi la méfiance s'enracine-t-elle dans la liberté ? Comment
articulez-vous ? Si la méfiance est liée à la liberté rigoureusement. Nous ne serions pas libres si nous n'avons pas la capacité de dire non d'abord. La liberté, bien sûr, consiste à dire oui, mais encore une fois, il faut pour que ce oui ait tout son poids, il faut que la possibilité de dire non soit également constante. Lorsque je dis « je crois et la foi est un acte libre », c'est parce que je sais que je peux ne pas croire.
Venons encore aux choses les plus simples, n'est-ce pas ? Admettons ce fond de méfiance, admettons cette faute, maladie, ce péché, oui. Cette maladie, etc. Pourquoi fallait-il, n'est-ce pas, que Dieu, qui est tout puissant, fallait-il que Dieu devienne l'un des nôtres, s'incarne pour que ce péché soit anéanti ou surmonté ?
C'est ça, surmonté. Pourquoi fallait-il ? Vous savez, moi, faudrait aller lui demander lui-même, d'une certaine manière. Nous sommes dans les conjectures, simplement, n'est-ce pas ? Face à ce que dit les théologiens du Moyen-Âge, parler des raisons de convenance. C'est pas totalement dépourvu. Pourquoi fallait-il que Dieu vienne parmi nous, que Dieu vive parmi nous dans ce monde de défiance ? Eh bien, pour rouvrir, justement, le chemin de l'homme vers lui-même, vers les autres et vers Dieu. Ce chemin difficile, ce chemin barré, ce chemin qui sans arrêt, ou sans arrêt des obstacles nouveaux se dressent, il est venu les vivre avec nous intégralement, et nous a montré le chemin, le vrai chemin, le seul chemin. Parce qu'il a vécu justement une expérience qui, elle, est l'une des causes de notre méfiance. Ou plutôt une des justifications que nous donnons à une méfiance très spontanée. Je m'explique. Je crois, voyez-vous, que l'homme commence par se méfier. Et après, il se donne des raisons. Et la grande raison que l'homme se donne de se méfier, c'est l'image qu'il se fait de lui-même, des autres et de Dieu. Or, précisément, cette fausse image de Dieu, d'un Dieu jaloux, d'un Dieu qui en veut au bonheur des hommes, d'un Dieu qui veut la mort des hommes, cette image-là, d'où vient donc qu'elle traîne toujours et qu'elle renaît sans arrêt dans l'esprit, dans notre esprit ? Or, c'est cette image-là que Dieu lui-même est venu briser. Il s'est fait homme pour nous montrer qu'il n'était ni jaloux de sa grandeur, ni avare de sa bonté. Il s'est fait homme pour nous montrer justement ce qu'était justement la confiance intégrale dans laquelle nous pouvions vivre désormais.
Mais tout ça aboutit quand même à une mort, et à une mort que les chrétiens ont interprétée comme un sacrifice, n'est-ce pas ? Et on a parlé, n'est-ce pas, du sacrifice de la croix, de ce Dieu vengeur, de ce Dieu jaloux, de ce Dieu qui ne pouvait être apaisé que par le sang.
C'est ça. Alors là, c'est là où vous évoquez, en une seule question, des montagnes de problèmes théologiques. N'est-ce pas ? Car la question, pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Imaginez-vous que tous les chrétiens se sont posés depuis qu'ils existent. Et l'un d'eux qui se l'est posé avec particulière acuité était nommé Anselme. Saint Anselme de Canterbury, qui naquit à Ostes, dans le Val d'Ost, fut prieur de l'abbaye du Bec en Normandie, et second archevêque de Canterbury, Guillaume le Conquérant, l'ayant emmené dans ses bagages. Il a donc écrit un traité, Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Alors vous voyez le contexte, Guillaume le Conquérant, nous sommes en plein monde féodal. Et tout spontanément, les images religieuses empruntent à la féodalité leur couleur. Alors, si un vassal fait une offense à son suzerain, plus le suzerain est élevé, plus l'offense est grande. C'est comme ça qu'Anselme parle du péché. Le péché étant une offense faite à Dieu, Dieu étant le souverain infini, le péché est un mal infini. Et comment le réparer ? Bien, qu'est-ce que le suzerain va exiger de son vassal ? Une réparation. Mais si le vassal est un tout petit seigneur, un petit hobereau de village, l'offense ne sera pas réparée. Il faut que ce soit quelqu'un d'un rang égal qui répare l'offense. Nous sommes donc devant un raisonnement typiquement féodal qui a traversé les catéchismes pendant des siècles et que tous les braves petits garçons et braves petites filles ont appris dans tous les pays du monde, à peu près. Cette idée, justement, que face à une offense infinie, il faut une rédemption, une satisfaction infinie. Inutile de vous dire que c'est une explication théologique qui ne répond absolument pas à la foi de l'Église. La foi de l'Église, c'est autre chose que la théologie. La foi nous dit, le Christ nous a sauvés dans sa mort. Alors là-dessus...
Mais pourquoi fallait-il qu'il meure ?
Attendez. Alors c'est ça, tout à l'heure vous me demandiez, pourquoi faut-il qu'il devienne homme, mais maintenant pourquoi faut-il qu'il meure ? Pourquoi fallait-il qu'il meure ? Fondamentalement, lorsque nous nous construisons cette image d'un Dieu cruel, d'un Dieu jaloux, d'un Dieu mortel, nous pensons à notre propre mort sans l'avouer. Car précisément, cette perspective de la mort, de ce chemin par où passe toute chair, est pour nous le symbole même de la grande angoisse, la réalité pour beaucoup, dans beaucoup de cas de la grande angoisse. Et lorsque l'homme atteint ainsi à la limite, lorsque l'homme atteint ainsi à la déréliction et à la solitude suprême, à ce moment-là, comment pouvoir justifier encore une confiance inconditionnelle en Dieu ? Notre Dieu, nous l'avons bâti avec les peintures de notre peur de la mort. Alors il fallait que Dieu, en Jésus-Christ, viennent vivre cette expérience radicale jusqu'au bout. Et il fallait que là, au plus profond du trou, sa voix s'élève encore pour crier vers Dieu. La mort du Christ nous sauve. Par quoi ? Par son sang ? Absolument pas. Par sa foi. Il y a un texte de saint Paul qui dit, on le traduit habituellement, il s'est fait obéissant jusqu'à la mort. C'est une très mauvaise traduction, là aussi, qui égare les chrétiens, n'est-ce pas ? Le Christ n'a pas obéi à un ordre du Père pour aller à la croix. Il s'est fait croyant jusque dans la mort. Voilà le sens vrai du texte de Paul. Et c'est ça qui nous sauve. Alors évidemment, tout ce qu'on a raconté sur le sang versé ne tient pas. Le sang, c'est simplement le symbole d'un engagement irréversible, irrévocable. Il y a du définitif là-dedans. Hein. Il a été jusqu'au bout, jusqu'au fond du trou, vous disais-je tout à l'heure. Du fond du trou, il a crié vers Dieu. Et c'est ce cri vers Dieu qui nous sauve.
Ce cri que vous appelez cri de confiance.
Cri de confiance.
Mais vous m'avez expliqué... Ce phénomène, enfin cette interprétation à partir de l'Anselme de Canterbury. Mais je trouve que vous êtes allé très loin. Est-ce que déjà les premiers chrétiens ne percevaient pas la mort du Christ comme un sacrifice. Et c'est ça qui est révoltant.
Alors, le mot sacrifice, n'est-ce pas, est un mot très ambigu. Vous avez certainement lu René Girard là-dessus, n'est-ce pas,
oui.
Toute l'œuvre de René Girard, où il a raison sur un certain nombre de points. Malheureusement, je dirais que lui aussi est prisonnier des mots, des pièges des mots. Le mot sacrifice est un mot piégé. Écoutez, quand j'étais petit, moi, on me disait qu'il fallait faire des sacrifices. Alors, ça consistait à se priver volontairement de quelque chose, et puis je ne sais plus quoi, enfin, il y avait une comptabilité très savante, le tas de sacrifices que l'on faisait. Ben, le sacrifice n'est pas d'abord une privation. Le sacrifice, deuxièmement, on l'a défini, et alors dans tous les ethnologues à peu près accepteraient la définition de René Girard, n'est-ce pas ? Le sacrifice, c'est donc l'immolation violente d'une victime qui va être le délégué, pour ainsi dire, du peuple, soit le bouc émissaire. Quoi.
Et dans une certaine perspective chrétienne, plus on souffre,
plus Dieu est apaisé, et plus on contribue
aux souffrances du Christ, c'est les mots même de saint Paul.
Dans ma souffrance, j'élargis la souffrance du Christ et l'amour du Christ pour son corps qui est l'Église. Hein? Mais alors, le sacrifice, tenez, nous allons prendre une autorité incontestée dans l'Église catholique, c'est saint Augustin. Saint Augustin est tout de même un docteur de l'Église connue et respectable. Eh bien, voici comment il définit le sacrifice. Toute œuvre bonne qui nous fait entrer en relation avec Dieu. Je répète, toute œuvre bonne qui nous fait entrer en relation avec Dieu.
Donc, une bonne conversation.
Oui, parfaitement.
Un bon repas.
Parfaitement, s'il est fait avec beaucoup d'amour.
Un beau soleil.
Oui. Toute œuvre bonne qui nous fait entrer en relation avec Dieu. Et alors là, précisément, dans la mort du Christ, nous trouvons le sacrifice en ce sens très précis, puisque c'est la relation au Père qui est constitutive, encore une fois, de l'événement de la mort et de la résurrection du Christ. Alors là, véritablement, je peux dire, il s'est livré à la merci des hommes, et en même temps, il s'est livré à la merci du Père, en toute confiance au Père.
Oui, encore là, vous... Le mot « se livrer à la merci du Père ». Il me semble qu'un Père qui est bon, un Père qui est généreux, comme on veut le présenter, dirait « mais non, ne fais pas des choses pareilles,
mais oui, mais
abstiens-toi de choses comme celle-là, je t'aime, mon
attention,
fils ».
Attention, il y avait un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est les hommes. L'intermédiaire, c'est la liberté des hommes, la liberté incontournable des hommes. Dieu a peut-être des défauts.
Vous me dites que Dieu est à la merci de la liberté des
hommes. Absolument. La phrase stupide de Sartre, n'est-ce pas ? Ou bien Dieu existe et je ne suis pas libre, ou bien je suis libre et Dieu n'existe pas, n'est-ce pas ? Mais elle est stupide, cette phrase. Je suis libre, donc Dieu ne l'est plus. Voilà la vérité.
Ça a des conséquences terribles.
Ça a des conséquences terribles. Mais il faut prendre Dieu. Tenez, souvenez-vous, dans les évangiles, ce père de l'enfant qui veut claquer la porte et s'en aller, n'est-ce pas ? Et qui demande d'abord qu'on réalise sa part d'héritage. Le père ne se défend pas. Le père se laisse piller. Au bout de quelques jours, le gamin s'en va. Le père ne court pas le retenir. Il le laisse partir, mais il l'attendra toujours. Il a eu beau partir, le père l'attend toujours. Il lui manque. Dieu est comme ça. Un respect scandaleux, proprement. De notre liberté.
Mais comment expliquez-vous qu'encore aujourd'hui, après Vatican II, après le Concile, n'est-ce pas, on ait encore ces textes liturgiques où il est question de Dieu apaisé par le sang de son
c'est
Fils,
ça, oui.
Du sacrifice de Jésus par lequel nous vient. Comment expliquez-vous cette espèce de fixation sur cette...
Ah, c'est une énigme, cela, voyez-vous. Il y a certainement... il y a une raison de fond, la première que nous allons voir, et il y a une seconde raison ensuite. La première raison consiste tout simplement dans le fait que lorsque l'événement de Jésus dans sa nouveauté incroyable a eu lieu, les hommes ont essayé de le dire. Et ils ont donc essayé, si vous voulez, de situer l'événement de Jésus par rapport à leur catégorie mentale. Or, les catégories mentales ambiantes étaient justement ces catégories de l'Ancien Testament, avec tout ce langage sacrificiel de l'Ancien Testament. Pour dire, il nous a sauvés au sens fort du mot, il a fait de nous des fils de Dieu et non plus des esclaves, ils ont été ramassés dans l'Ancien Testament, tout ce langage qui demandait une sérieuse réinterprétation. Alors nous trouvons un début de réinterprétation du langage biblique dans les évangiles en particulier, beaucoup plus clair, beaucoup plus net, n'est-ce pas ? Mais malgré tout, nous avons ce langage et quelquefois les figures de l'Ancien Testament ont voilé la réalité du Nouveau. Deuxième raison, alors là c'est beaucoup plus complexe. Je pense, vous savez, qu'il est difficile d'entendre l'Évangile, de l'entendre simplement. Et qu'il est très facile et très tentant, pourquoi ? De le travestir, de le défigurer, de lui faire dire autre chose que ce qu'il dit réellement. Pourquoi ? Parce que c'est positivement incroyable. C'est incroyable que Dieu ne soit qu'amour pour les hommes. C'est incroyable de croire que lorsque même la haine des hommes se tourne vers lui, Dieu n'est pas capable de répondre autrement que par l'amour. Nous avons... C'est pas croyable. Alors, subrepticement remonte du fond de l'humanité, des images qui sont toujours les mêmes. D'un Dieu en courroux, d'un Dieu qui est obsédé par notre perfection. D'un Dieu qui ne nous fera grâce de rien. C'est-à-dire, et voilà le grand paradoxe, cette image de Dieu, savez-vous où dans la Bible on la trouve ? Ah, on la trouve de façon très précise, campée dans un personnage concret qui dans la Bible s'appelle le Satan. Le Satan, le Zatan, c'est pas un nom propre, c'est un nom de fonction. C'est l'accusateur. C'est celui qui exige l'application stricte de la justice. C'est celui qui dénonce impitoyablement toute la moindre maladresse. C'est celui qui veut la perfection. Or, le paradoxe, c'est que beaucoup de chrétiens donnent à leur Dieu le visage et le rôle de Satan.
Alors, comment donner à notre Dieu un autre visage?
Eh bien,
et doit-on pour cela éliminer tout à fait la notion de sacrifice?
Non. Vous posez de nombreuses questions. Je réponds d'abord à la dernière. Je pense que nous n'avons pas à l'éliminer, mais à lui rendre ce sens très positif qu'elle a. Car le sacrifice, c'est l'acte par lequel je m'en remets à Dieu dans ma vie concrète de tous les jours. Que le sacrifice, de temps en temps et souvent même, implique que pour livrer ainsi ma vie par amour, j'ai à m'en dessaisir, et que le dessaisissement soit parfois difficile. Certes, donc il ne faut pas gommer ça non plus. Il ne faut pas gommer la croix. Mais il faut la resituer comme signe, encore une fois, de l'amour de Dieu pour les hommes et de la foi de l'homme en Dieu. Comment maintenant purifier le visage de Dieu ? Comment, vous disais-je, entendre l'Évangile, mais dans sa, avec sa note juste, voyez. Je ne sais pas. Je pense simplement que il faut d'abord y revenir souvent, et c'est peut-être le grand espoir que nous avons à l'heure actuelle devant ce retour aux sources véritables de cette purification d'image païenne qui traînait de Dieu. Mais je ne sais pas. Je crois que seul Dieu peut le faire.
Mais concrètement, Père Thomas, à l'égard de ces textes, par exemple, de ces textes de la préface, où on parle de ce Dieu qui appelle, qui est pacifié par le sang du Christ, etc., est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail très important
Il y a un travail très important de théologie et de liturgie à faire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si au Canada, vous aviez autrefois le brave minuit chrétien, n'est-ce pas ?
Oui, on l'a toujours.
Eh bien, vous l'avez toujours. Alors Guy de son sang apaise le courroux. Voilà, c'est dans le minuit chrétien. Oui, Guy de son sang apaise le courroux, c'est la phrase y est. Alors commençons par arrêter de chanter ça. Il y a donc, si vous voulez, tout un travail, j'allais dire, d'éducation globale à faire, de façon à remédier à ces fantasmes, ces fantasmes sanglants, n'est-ce pas ?
Et surtout, mais vous voyez, on est attaché sentimentalement à ce
sentiment.
On ne peut pas imaginer Noël
et bien,
sans le minuit chrétien.
Vous continuerez à faire chanter qui de son sang apaise le courroux.
Et en même temps, ça nous révolte.
Et ça nous révolte. Alors, il faut choisir.
Ambiguïté, encore une fois.
Ambiguïté. Mais il est certain que là, je crois que vous avez tout à fait raison d'indiquer ce chemin, le chemin des cantiques, le chemin des représentations, le chemin de l'iconographie.
Pensez par exemple à ces récits d'apparition de la Vierge de Fatima, de la Vierge de la Salette.
Oui, c'est ça. Hein. Non, mais et derrière, vous avez sans cesse, n'est-ce pas, cette perversion diabolique où le visage de Dieu devient soudain le visage d'un vengeur. Là, Alors, c'est la perversion diabolique, elle est impure.
Et au fond, c'est nous qui avons fait ça.
Mais c'est nous qui imaginons ça. Car encore une fois, la pure lumière de l'Évangile dit tout autre chose, tout autre chose.
Mais est-ce qu'à ce moment-là, on risque pas... Enfin, je me sens toujours un peu gêné, parce que quand je lis entre autres Saint Paul, je lis entre autres l'Épître aux Hébreux, il me semble que cette notion de sacrifice, elle est là, qu'elle est présente, qu'il y a cette idée-là.
Exactement.
Et est-ce que je me dis pas, est-ce qu'au fond, je suis pas en train de faire une révision de la théologie, alors qu'on me dit qu'il y a là...
Vous continuez la révision que Saint Paul a faite déjà. Enfin, si vous prenez l'Épître aux Hébreux à laquelle vous faites allusion, mais il y a un texte absolument merveilleux là-dedans, les holocaustes et tout ça, ne t'ont pas plu. Mais tu m'as formé encore, alors je suis venu et j'ai dit, me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Voilà le sacrifice du Christ. Me voici, ô mon Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous assistons déjà à cette démystification sacrificielle en disant, mais oui, il y a un sacrifice unique qui abolit tous les autres.
Et cette volonté de Dieu, quelle est-elle ?
La volonté de Dieu, encore une fois, c'est le bonheur de l'homme. Le vrai bonheur de l'homme, que l'homme devienne son fils.
Mais comment expliquez-vous alors, n'est-ce pas ? Vous me dites la volonté de Dieu, c'est le bonheur. Et d'autre part, nous avons eu une théologie qui pendant 2000 ans a éliminé tout à fait la notion de plaisir, n'est-ce pas ? Avoir du plaisir, et en particulier avoir un plaisir physique, jouir du soleil, manger un bon fruit, etc., était conçu comme une chose abominable dont il fallait se garder.
Alors,
c'est toute une théologie qui est perverse, c'est tout un discours chrétien qui a perverti l'humanité.
Là aussi, non, c'est plus complexe, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, je faisais appel à l'autorité de Saint-Augustin. Je vais encore faire appel à lui, car il y a un texte merveilleux où il commente une phrase de Saint-Jean, « Nul ne vient à moi si mon père ne le tire. » Et Augustin dit, « Alors si nous sommes tirés, nous ne sommes plus libres. » Et il continue, mais ici, parce qu'il y a deux manières de tirer quelqu'un. Par la violence d'abord, et par le plaisir. Et il donne une large place au plaisir, en citant du reste Virgile, « Trahit sua quemque voluptas ». Chacun est attiré par son propre plaisir, n'est-ce pas ? Alors, ils disent, ne disons pas qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de théologie du plaisir. Mais cette idée, n'est pas de... Tenez, je travaille actuellement... C'est normal, un peu le fondateur de la Compagnie de Jésus à laquelle j'appartiens, Ignace de Loyola. Et il y avait une formule que j'avais vue très souvent, qui court sous sa plume, n'est-ce pas ? La gloire de Dieu et le bien de son âme. Le bien de son âme, j'ai été voir un peu ce que ça voulait dire. Ça veut dire très exactement ce que vous demandiez vous-même. Que je sois bien. Que l'homme soit bien. Être bien, pas seulement le bien-être au sens matériel du mot, voyez-vous, mais le être bien de l'homme, c'est-à-dire que il y a urgence, et là je suis d'accord avec vous, à retrouver que dans la charité, au sens fort du mot, l'agapé, l'amour qui est Dieu lui-même, cette charité serait tronquée si elle ne comportait pas l'amour de soi. L'amour de soi, c'est un devoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vas-y donc, si tu t'aimes pas toi-même, pauvre prochain, qu'est-ce qu'il prendra ?
Alors donc, l'idée qu'on nous donnait il y a quelques années, il faut que tu te sacrifies, c'est comme ça que tu vas plaire à Dieu, c'est une idée
non.
qu'il faut apprendre à évacuer.
Il faut l'évacuer. Il faut y maintenir, bien sûr, que tout amour réel passe par le chemin de croix, ça c'est vrai, tout amour réel, vous verrez. Mais que, précisément, il passe par, il ne s'y arrête pas, il n'est pas bloqué là. Ce qui compte, c'est l'amour qui anime quelqu'un. Ce n'est pas le prix qu'il a eu à payer pour réaliser sa performance.
Il y a donc tout un travail de purification encore de l'idéologie chrétienne.
Toujours, à partir de l'Écriture, à partir de l'Évangile.
Oui. Mais en essayant de garder une ligne quand même droite, parce que
ce n'est
pas facile de dire je laisse tomber ça, parce que Saint Paul me semble exagéré, et je garde ça parce que ça semble faire mon affaire.
C'est-à-dire qu'il faut essayer surtout de voir qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Il y a tout ce travail, qui est le travail des exégètes, des théologiens, de dégager justement d'expressions qui sont empruntées à un contexte culturel qui n'est plus le nôtre, la signification toujours actuelle, le message toujours permanent qui cherche à s'exprimer.
Et travail, comme, et on revient au début de ce que nous avons dit, travail qui se fait en Église, qui se fait avec les autres.
Avec les autres.
Avec les uns et les autres, nous critiquons dans notre compréhension de l'Évangile, du message de Dieu. Bien, Joseph Thomas, je vous remercie.